grande cellule au premier étage. Je crée un central pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Ouais, ma qui dit, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et ben voilà, Vanessa, elle est pas sage du tout. Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Il y a du monde autour du micro. Tout d'abord, bah Vanessa, que vous avez déjà entendu.
Bonsoir.
Il y a Biggie qui est avec nous.
Bonsoir à tous.
Il y a Rose qui est avec nous.
Salut.
Il y a Louise.
Salut.
Et Inès qui est au bocal.
Salut.
Et Serge, qui est aussi au micro. Donc vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et en diffusion un peu partout en France, sur plein de radios locales et tout. L'Envolée, c'est quoi L'Envolée? C'est l'émission qui donne la parole aux prisonniers, à leurs proches et aussi à pas mal de gens qui subissent les violences d'État. On va pas mal parler de ça aujourd'hui. Et donc pour nous appeler, c'est au 07 53 10 31 95. Vous pouvez aussi nous écrire des lettres à FPP-L'Envolée 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à contact@l'envolée.net et nous contacter aussi sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter, Facebook et Instagram. On rappelle que vous pouvez nous écrire pour abonner, enfin quand vous voulez vous abonner, et c'est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières. À l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, On va donc j'ai juste donné vos blases, mais en fait j'ai pas dit qui vous étiez en particulier. Vanessa, vous l'avez quand même régulièrement entendu à ce micro. C'est une des membres des mutilés pour l'exemple. Et Biggie
pareil.
Pareil. Voilà. Donc on va tchatcher avec vous, mais en premier on va commencer par une petite lettre qu'on a reçue cette semaine.
Pardon, ça commence bien. Bonjour l'envolé. Je vous contacte car plusieurs détenus m'ont parlé de votre magazine et de votre émission de radio. Bravo pour votre travail et merci de porter nos voix à travers le magazine et l'émission. Vous avez compris, je pense, je suis à la prison de Caen-If, la nouvelle. En plus, un an sans parloir parce que ma famille est restée dans le nord, Hauts-de-France. Je suis de Roubaix et ma copine est en Bretagne, dans le Morbihan, donc ça fait un an que je n'ai vu personne de familier. J'ai intégré le bâtiment Respect. En gros, c'est un CD en maison d'arrêt. C'est presque comme un vrai CD, il y a deux maisons d'arrêt classiques et le bâtiment Respecto où je suis. Je vous écris car les détenus m'ont dit que le magazine était gratuit pour les détenus, d'autant que je suis indigent. J'attends pour travailler mes listes d'attente. Mes coordonnées sont en haut à gauche, mais je vous les remets, en espérant s'il vous plaît une réponse positive, parce que là je me sens vraiment seule. Cordialement.
Et merci beaucoup à toi. On est beaucoup trop flatté dans cette lettre et tout. Voilà. Mais ouais, donc ça permet de rappeler encore et toujours que c'est bien évidemment tous les journaux sont gratuits pour les prisonniers à l'intérieur et que de toute façon c'est toujours un enfer d'avoir de la thune en détention. Donc peut-être pour rappeler ce terme d'indigent, c'est les gens qui n'ont pas de thune à l'intérieur de la tôle. Tu reçois un petit pécule de vraiment pas grand chose dans mes souvenirs.
Je crois 40 balles en tout cas.
C'est ça, je crois que c'est 40 balles par mois, donc tu peux vraiment pas faire grand chose. Donc ça a plein de conséquences assez forte à l'intérieur. Déjà tu peux pas fumer quoi, ça c'est clair. Et l'autre truc c'est que tu peux pas cantiner, donc ça veut dire que t'es obligé de bouffer leur bouffe de merde. La semaine dernière on en parlait pas mal sur le fait que les rations étaient trop petites, que c'est absolument dégueulasse. C'est de la bouffe d'hôpital en pire, enfin en tout cas de toute façon c'est les mêmes boîtes qui obtiennent les gros Sodexo et tout ça, qui obtiennent tous les trucs et tout. Donc voilà.
Et ça veut aussi dire que tu peux rien louer en cellule, quoi, parce que tout se paye globalement quand même. Donc même ta télé, faut que tu payes la location, les plaques, tu payes, le frigo, tu payes. Donc ça veut dire que tu peux rien faire de tout ça. Et tu peux aussi toujours courir pour mettre du crédit sur ta cabine téléphonique pour parler à tes proches, quoi.
Donc ça a des conséquences quand même un peu ouf, et ce qui fait aussi que ça doit grandement renforcer l'isolement qui est imposé par la prison, de t'éloigner de tes liens familiaux et tout quoi. Donc pareil, enfin ça fait partie des trucs qui sont écrits dans la loi, que la prison ne devrait pas t'éloigner de tes liens familiaux parce que c'est absolument essentiel à la réinsertion.
C'est même une mission de l'administration pénitentiaire de maintenir les liens familiaux.
Donc comme d'hab, leur mission, ils les respectent toujours, à part surveiller et punir, ils font pas grand chose de plus dans leur lien, enfin dans ce qu'ils imposent aux prisonniers et à leurs proches, quoi.
Et le truc, c'est que c'est une nouvelle prison dont ils parlent, parce que Caen-If, du coup, c'est une nouvelle prison qui est censée remplacer une prison qui était au centre de Caen, si je me trompe pas. C'est que du coup, c'est vraiment aussi un double isolement, parce que d'une part, en fait, ça t'éloigne encore plus des centres-villes, donc pour ta MIF, notamment s'ils n'ont pas de caisse ou quoi, c'est encore plus galère de venir te voir. Et en plus, c'est des tôles qui sont plus isolantes dans leur mode de fonctionnement, parce que le truc qu'ils ont fait de dire on va mettre des douches dans les cellules, c'est mieux pour les conditions je sais pas quoi, ça fait aussi qu'il y a moins de conditions de sortie, et qu'en fait les prisonniers racontent souvent qu'ils étaient moins isolés parce qu'ils avaient plus de contact avec les autres prisonniers dans les anciennes tôles de centre-ville, même si elles étaient super vétustes et dégueulasses, et que de toute façon les nouvelles attendent globalement pas très longtemps pour être dans le même état, quoi.
Dans mes souvenirs, il y avait une phrase d'un prisonnier de Corba qui, à l'époque, il y avait la prison qui était dans le centre-ville de Lyon, avant qu'ouvre Corba, il y a une dizaine, quinzaine d'années maintenant, et qui disait qu'il préférait l'odeur de pisse et les cafards à cette nouvelle tôle qui était inhumaine, en fait. Voilà. Et avec tous les trucs aussi où, en fait, un autre truc, c'est que tout est géré électroniquement, les cellules, enfin les ouvertures de portes et tout ça. Voilà, et ça fait que t'as vraiment, enfin tu peux n'avoir vraiment zéro contact avec personne. Voilà, parce qu'en fait c'est le gardien qui voit avec la caméra de vidéosurveillance s'il y a quelqu'un qui est à la porte ou quoi, enfin à la grille, et qui fait que qui va t'ouvrir ou quoi quoi. Donc c'est tu peux vraiment te retrouver à croiser Sun Pair assez facilement quoi. Et cette nouvelle prison à Caen, c'est un peu cool d'en parler parce qu'on avait eu quand même pas mal de gens qui nous avaient déjà écrit de Caen pour nous expliquer à quel point cette tôle elle était infernale et pas particulièrement pour l'état de ses murs, même si c'était vraiment l'enfer, mais aussi parce que les matons à l'intérieur étaient complètement voilà, je me souviens de cette punchline qui était une tôle de 45 avec des matons qui ont la même mentalité que l'époque, voilà, et qui et le truc c'est que ces matons ils sont partis aussi là-bas dans cette nouvelle tôle d'If quoi, et donc c'est toujours le même truc quoi. Le problème c'est pas tant les murs que les matons quoi.
Et juste là par rapport à la construction des nouvelles prisons, parce que c'est un peu sorti dans la presse, cette espèce d'éternelle redécouverte que quand on construit des nouvelles prisons bah ça règle pas du tout le problème que eux ils appellent la surpopulation, et là c'est un peu sorti sur Bordeaux-Gradignan parce qu'il y a des avocats qui sont allés visiter différents lieux de détention quoi, et en gros la nouvelle tôle là je sais pas quand est-ce qu'elle a ouverte, mais en gros le truc c'était de régler notamment ce problème là, et en fait ils ont déjà un taux de suroccupation énorme et déjà plein de cellules où les prisonniers sont trois dedans quoi.
De toute façon, ils avaient fait la même chose aussi à la santé. Ou à la santé, ils avaient promis un encellulement individuel, puis après directement, donc la santé qui a réouvert il y a 5 ans, peut-être un truc comme ça, même pas, peut-être un peu moins, et qui dès le début, en fait, ils avaient prévu de la surpopulation, alors que avant, ils avaient promis l'encellulement individuel et tout ça comme d'habitude, quoi.
Là, c'était un peu marrant parce que les matons, ils étaient en mode ah merde, en fait, ça marche pas.
Ah, ok, surprise. On est très très étonnés. Donc voilà, mais de toute façon ils sont dans un double jeu les matons là-dessus, mais voilà, mais parce que eux ils dénoncent la surpopulation carcérale, mais que pour un seul but, c'est le fait d'avoir de plus en plus de matons avec eux quoi, et ça a été tout le discours de Bridel, l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire, là-dessus, de dire qu'il fallait continuer à recruter plus, et il a vachement porté en fait les revalorisations salariales des matons et tout pour dans cet objectif là en particulier, et aussi de revaloriser la carrière, ce que tu allais pouvoir faire et tout, et leur donner une fonction autre que celle de porte-clé, voilà, donc comme si c'était envisageable, avec et ça a été la réforme de Dupond-Moretti, de dire que de plus en plus les matons ils allaient aussi avoir un rôle dans l'application de la peine et devenir des spips, et donc le fait qu'ils deviennent humains et tout ça, donc c'est vraiment tout dans cette même logique en fait, parce que c'est un truc qui est assez important, c'est que la matonnerie elle a énormément de mal à recruter, enfin en tout cas elle avait énormément de mal à recruter. Sauf qu'en fait, grâce aux augmentations de salaire et tout ça, ils ont réussi pour la première fois. Enfin, il y a eu deux trucs qui ont permis ça. C'est qu'il y a eu l'augmentation de salaire et le fait qu'ils autorisent les candidats qui n'avaient pas le bac à candidater. Et donc, à partir de là, ils ont, pour la première fois, à la dernière session de recrutement, donc l'été, enfin, en juin dernier, quoi, pour la première fois, le nombre, il y avait plus de candidats que de postes, voilà, et donc ils arrivent à recruter, et ça a été vraiment tout le travail terriblement efficace de Bridel là-dessus, qui est particulièrement inquiétant et qui augmente toujours en fait le nombre de bleus, et donc ce qui est flippant quoi. Une tôle, pour qu'elle tienne, il faut qu'il y ait des matons qui répriment, voilà, mais y a, vous allez voir, la transition, elle est incroyable. voilà, mais quand ils n'ont pas assez de matons, et notamment, et tout ça, l'autre chose qu'ils appliquent, c'est que le prisonnier devienne son propre maton. Et en fait, on n'a pas lu ta lettre particulièrement parce que tu nous flattais, mais surtout parce qu'elle nous parlait, elle nous permettait de parler du module respecto là, ce truc un peu chelou que tout le monde désire, et tout en sachant que c'est de la merde quoi. Donc peut-être, tu le décrivais en fait dans ta lettre. En fait, c'est comme un CD. Donc, pour les gens qui connaissent pas trop. En France, il y a trois types de prisons. Les maisons d'arrêt, c'est là où est-ce qu'il y a la surpopulation. Et t'es enfermé en cellule 22 heures sur 24. Et tu peux sortir pour quelques activités de temps en temps. Les douches trois fois par semaine. T'es 2 heures. T'es enfermé 22 heures sur 24. Et les deux autres heures, c'est les heures de promenade. Et après il y a les autres qui sont les centres de détention et les maisons d'arrêt et les maisons centrales. Merci. Qui sont dans laquelle il n'y a pas de surpopulation carcérale. Et particulièrement dans les centres de détention, il y a ce qu'on appelle les régimes différenciés. C'est-à-dire que en fonction des étages dans laquelle tu es dans la prison, tu ne vas pas avoir le même fonctionnement. Tu vas avoir des étages où il va y avoir un régime, ce qu'on appelle un régime porte ouverte, donc tu vas avoir tes portes qui vont être ouvertes dans la coursive, et des régimes qui vont être plus ou moins sévères à l'intérieur. Généralement, les maisons centrales, ça dépend lesquelles, qui fonctionnent avec généralement un peu plus d'ouverture, ou en tout cas t'as plus de régimes portes ouvertes et t'as plus de facilité de déplacement. Enfin, en tout cas, c'était le cas à Poissy il y a une vingtaine d'années. Même si clairement ça a changé aussi pas mal avec l'ouverture de Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, où ils ont drastiquement refermé les trucs. L'idée, c'était de dire on enferme les gens pendant. Les centres de détention, normalement, ça ne doit pas dépasser 8 ans, si mes souvenirs sont bons, les durées d'enfermement. Et c'est un truc qui doit t'amener vers la sortie. Les maisons centrales, c'est là où y a les gens qui ont les peines de dinosaures, quoi, et qui savent que voilà. Et donc, en fait, l'administration pénitentiaire s'est dit on ne peut pas enfermer de la même manière des gens qui vont faire une vie. En prison, plutôt que des gens qui vont faire quelques années, quoi. Sauf que tout ce fonctionnement-là, ça tient. Enfin, donc tout ce truc-là des régimes différenciés, en fait, ça tient sur le fait que on va te donner l'espoir dans un régime qui va être plus agréable et moins invivable pour toi, quoi. Et donc ça devient une récompense. On va te donner comme récompense le fait d'être dans un régime qui va être moins violent pour toi, sur le fait que tu vas pouvoir plus facilement discuter avec les potos, aller jouer aux cartes pendant l'après-midi. Alors après, il y a vachement de restrictions aussi sur combien de prisonniers ont le droit d'être dans une cellule, tout ça. Enfin, ils gardent bien sûr un pouvoir hyper coercitif là-dedans. Hein. Mais voilà. Et donc toute leur logique à eux, elle tient là-dessus. C'est de te faire assimiler le fait que si tu te comportes bien, si tu es actif dans ta réinsertion, comme ils disent, parce qu'en fait, le seul truc, c'est d'être poli avec les matons et de faire exactement ce qu'ils te disent, quoi. Et qu'il ne faut pas que tu te rebelles quand ils te marchent dessus et tout. Et ben, on va t'améliorer tes conditions de détention. Et donc, c'est un peu le module respecto, comme tu le dis, c'est la même chose qu'un CD, quoi. Et donc, en fait, ça va être intégré, cette logique des régimes différenciés, dans les maisons centrales. Les maisons d'arrêt, je les confonds à chaque fois. Dans les maisons d'arrêt. C'est un modèle qui vient d'Espagne. En fait, c'est marrant parce que ça s'inspire de plein de modèles différents. Ça s'inspire d'un côté d'un modèle canadien où, en fait, eux, c'est pas des régimes qu'ils ont à l'intérieur des tôles, mais c'est plein de tôles qui ont des régimes différents et t'espères petit à petit aller dans une tôle qui va être de moins en moins sécuritaire. Il y a cette logique-là qui vient du Canada, et il y a eu ce truc en particulier qui était le modèle, le truc Respecto, qui s'appelle Respecto parce que ça vient d'Espagne d'ailleurs, qui était on va mettre des conditions à peu près bonnes pour les gens qui vont sortir très très vite. Et donc, ce modèle respecto, il ne tient que parce que tu as la peur de retomber dans un régime de merde. Et c'est le même fonctionnement, et c'est tout le truc d'expliquer pourquoi en fait une prison ne pourrait pas vivre sans exister sans un mitard. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration pénitentiaire joue sur ce truc-là de te dire tu vas pouvoir avoir des conditions encore plus infernales. C'est la même chose avec l'isolement, c'est la même chose. Et donc, l'administration son rôle, ça va être un peu de méthodiquement organiser comment donner des carottes sur tes régimes de détention, sur tes conditions de détention, pour pouvoir ou pas... Enfin, on va te récompenser ou non en fonction de ton comportement. Et ce qui fait qu'en fait, tu as beaucoup moins à réprimer les gens parce qu'en fait, tu intériorises toi-même. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, on dit ça vraiment sans aucune espèce de reproche, quoi. Enfin, c'est juste pour dire le machiavélisme en fait, de l'administration pénitentiaire. Parce que bien sûr que tout le monde souhaite que ses conditions de détention elles soient améliorées. Et ce n'est pas être invendu que de souhaiter que ses conditions de détention s'améliorent. Voilà. Mais... ça fait que ouais, tu deviens toi-même ton propre maton qui va être docile face à tout ça. Et eux, pour eux, c'est tout bénef. Parce qu'en fait, ça leur coûte rien de réussir à avoir à ce que les gens se contrôlent eux-mêmes, quoi. Donc ça nous semblait important de revenir là-dessus parce que c'est un truc qui va de plus en plus se développer, surtout que bah, on va voir si elles vont commencer à sortir là, ces nouvelles prisons qui nous avaient promis là, les SAS qui vont pareil être en fait un truc qui va être une récompense en espérant que tu vas sortir plus vite parce que tu auras été actif dans ta réinsertion, tu vas pouvoir trouver un boulot et tout. Voilà, et après bah, juste ça c'est le côté où comment tu peux améliorer tes conditions de détention, et puis à l'autre côté, qui sont les régimes d'isolement, et après aussi le mitard. Et tout ça, c'est un fonctionnement général qui va, d'un côté, on va détériorer complètement tes conditions de détention, on va te foutre misère, voilà, que ce soit la torture blanche de l'isolement ou les violences physiques qui se passent au mitard et autres. Et tout ça, en fait, fait une chaîne de diverses conditions de détention que tu vas pouvoir subir et sur laquelle en fait va jouer énormément l'administration pénitentiaire pour faire en sorte que toi-même tu enfin les matons ils aient pas besoin de te taper dessus pour faire pardon c'est tunnel le plus long de l'histoire de la radio veuillez
peut-être,
m'excuser
peut-être pas le plus long mais ouais, faut voir aussi la puissance de cette carotte là du truc de respecto en maison d'arrêt parce qu'il y a deux trucs c'est que en fait en maison d'arrêt vu qu'ils dans les textes ils disent que c'est pour des peines inférieures à 2 ans enfin c'est un temps de détention globalement de 2 ans max en comptant la détention provisoire dans les faits il y a des gens qui galèrent 5-6 ans en maison d'arrêt avant d'être mis en CD et donc du coup ce truc d'espérer un CD dans la maison d'arrêt c'est super puissant parce qu'une fois que t'as qui t'ont bien fait galérer à attendre ton CNE pendant 1000 ans et qu'en fait tu l'as jamais toi t'as vraiment besoin d'être en CD et de sortir de la maison d'arrêt donc ça fait ça et sur l'autre truc c'est aussi sur le temps de détention finalement parce que le centre de détention comme tu disais c'est aussi un endroit où ils vont pour pseudo préparer la réinsertion avec 1500 guillemets, mais ce qui fait que tout le temps que tu galères en maison d'arrêt, il y a tout un certain nombre de trucs qui pourront peut-être t'aider à avoir une remise de peine et tout, qui sont encore plus difficiles à mettre en œuvre. Et donc en fait, l'espoir d'aller en CD ou dans des trucs comme ça aussi, c'est aussi ça, c'est pouvoir mettre en place ces trucs-là qui te donnent un peu l'espoir de pouvoir sortir plus vite, quoi.
Ouais, puis c'est ouais, c'est ça, t'as plein d'activités. Enfin, donc t'as la cellule individuelle et en plus t'as plein d'activités et tout ça. Et il y a des fonctionnements qui sont vraiment mais des plus infantilisants qui peuvent exister en modèle respecto avec des feux tricolores de si t'as fait une réflexion en maton c'est des faux exemples que je donne mais t'as des si t'as fait une réflexion en maton tu t'es en feu orange et puis après derrière enfin tu sais les trucs que tu pourrais imaginer dans les pires écoles maternelles tu vois et voilà et donc il y a vraiment ce truc de en fait t'es quand même extrêmement surveillé pendant ces périodes, quand t'es là-bas et tout ça, et tu sais aussi quand t'es à l'intérieur du modèle respecto que de tout petit écart, ça peut voilà. Et par exemple, enfin l'un des trucs, c'est d'avoir un Fontel en cellule, voilà. Donc on sait combien ça coûte un Fontel et tout. Enfin combien ça coûte d'avoir de téléphoner depuis les téléphones de l'administration pénitentiaire et tout quoi. Et donc ça réprime là-dessus, enfin voilà, et ça, c'est encore plus violent quoi, parce que et ça fait que en plus tu perds, tu te retrouves à perdre vraiment énormément, enfin tu vas pas toujours te retrouver au mitard parce que ils ont trouvé un bout de shit dans ta cellule, tu vois, voilà. Là par contre tu vas te retrouver à dans un régime, enfin tu vas te retrouver à trois dans une cellule et tout, enfin voilà, donc la sanction elle devient vraiment monstrueuse et tout, et donc bah, ce qui logiquement fait que c'est beaucoup plus tranquille quoi. Et l'autre truc aussi qu'il y a dans ces modèles respecto, c'est que ça a été pas mal refusé par des gens, notamment sur le fait que tu te retrouvais à travailler gratuitement. Voilà. Et donc, si mes souvenirs, je crois que c'était à Réo, peut-être que je confonds, mais en tout cas, il y avait un truc où il proposait de rentrer dans le modèle respecto et tout ça, et dedans, par exemple, tu veux fournir 10 heures de travail par semaine, je crois, gratos, quoi. Et ça, par contre, il y a quelques personnes qui ont refusé d'aller dans le modèle respecto en disant, bah non, en fait, voilà, je veux quand même pas travailler gratuit et tout. Mais donc, c'est quand même dans ce genre de bail que l'administration pénitentiaire sait très très bien ce qu'elle fait, tu vois. Si elle se dit comment je peux réussir à vendre un truc qui va faire que les gens ils vont travailler gratos et que je vais y arriver, c'est que tu sais que voilà quoi, c'est vraiment ignoble quoi, je sais pas comment le formuler autrement.
Mais il y a des politiciens aussi qui ont bien compris ce truc de comment faire des économies en faisant en sorte que les gens soient leur propre maton, parce que c'est un truc qu'on dit beaucoup sur le bracelet, qu'en fait t'es ton propre maton et tout. Mais dans mon souvenir, je sais plus si c'était Valérie Pécresse ou une autre qui avait dit à un moment, ouais en fait ça pourrait être super parce que en fait on pourrait faire des prisons sans maton, mais en mettant les gens en bracelet électronique dedans, ce serait genre, ça permettrait de faire des économies à balles quoi.
Oui, ça a été un projet qui a été fait de construire plein de prisons. C'était de je sais plus quel politicien avait dit ça, mais c'était de mettre les gens dans les casernes de militaires.
Ouais, c'était ça.
Voilà, et qu'en fait il y avait même pas besoin d'avoir des gardiens parce que de toute façon on les foutrait avec le bracelet électronique, et donc voilà. Et c'est juste, bah, c'est pour rappeler que ce truc-là, je pense que pour le bracelet, c'en est vraiment très bon exemple. C'est que tout le monde, tous les personnes qui sont passées sur bracelet, t'expliquent qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, le bracelet devient vraiment un truc proprement insupportable, quoi. Et pour cette raison-là, que en fait, tu es ton propre maton et que tu es toujours, et que t'as toujours, en fait, une épée de Damoclès, tu sais que t'as l'administration pénitentiaire qui te regarde à longueur de temps, alors que t'es dans la rue, soi-disant libre, quoi. Voilà. Et puis, que c'est chiant parce que, enfin, je sais plus dans quelle, avec quelle discussion et tout ça, mais ça fait aussi que parfois ton entourage même devient ton maton. C'est-à-dire que bah, quand tu fais la soirée avec tes potos et puis que tu sais que la personne elle doit rentrer à l'heure, au bout d'un moment, t'as pas envie que ton poteau y retombe, et donc c'est toi-même qui dis t'es sûr que tu dois pas y aller et tout. Et ça fait qu'en fait on se retrouve tous, tu vois, même si c'est fait avec, on sait que c'est toujours fait avec. Bienveillance et tout, mais en fait on se retrouve tous à porter en fait ce que souhaite l'administration pénitentiaire, et ils sont affreux quoi. Enfin je veux dire, c'est machiavélique le bail, et
tu peux même pas, c'est hyper dur de penser à tout en plus. Il y avait eu l'histoire d'une meuf sous bracelet qui avait des heures de sortie comme ça, et en fait elle avait pas capté qu'il y avait un jour férié, et elle s'est fait défoncer là-dessus parce que du coup elle est sortie et en fait tout sonne quoi. Mais le bracelet, ça montre bien aussi ce truc, parce que qu'on dit sur le modèle respecto, parce que c'est normal d'avoir plutôt envie d'être sous bracelet que d'être dans une tôle surpeuplée sur un matelas par terre. Et en même temps, des histoires que les gens sous bracelet racontent, il y a un moment où il y a des gens qui disent en fait on préférerait être en tôle, ce serait plus clair quoi comme truc.
C'est ça, c'est exactement ça en fait. Il y a le truc de est-ce que c'est clair ou pas. Voilà, qu'est-ce que. Bon voilà, on a essayé de faire un petit entrevue de comment fonctionnait le système pénal français. Non mais enfin je pense que vraiment que c'est hyper important de décrire tout ça et de le prendre aussi par cette lorgnette là, parce qu'en fait c'est vraiment. Les prisonniers vivent au quotidien de devoir faire des arbitrages par rapport à tout ça, et tout ça en fait prouve encore une seule chose, c'est que c'est l'administration pénitentiaire qui maîtrise absolument tout, voilà, et qui laisse que très très peu d'espace de liberté. Et pareil, tu parlais du CNE, tout ça, bah, c'est en fonction des places qu'a l'administration pénitentiaire, et elle te fait croire que c'est ton comportement tout ça, mais en fait eux ils ne fonctionnent que en gérant, ah bah s'il y a une nouvelle place au respecto, tu t'es bien tenu, on va t'y faire passer, mais faut que tu sois en haut de la liste, c'est pas parce que tu t'es bien tenu que voilà, c'est parce qu'ils ont une nouvelle place qu'ils vont t'y faire aller. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ils te font croire que c'est ton comportement, qu'à un moment, t'auras été méchant ou quoi, ou t'auras pas fait ce qu'il fallait faire. Alors qu'en fait, c'est parce qu'eux, ils ont une nouvelle place en respecto que maintenant, ils vont t'y faire passer. Et c'est pas parce que t'as eu un bon comportement.
Plus le truc que c'est pas que le bon comportement, ça dépend aussi de comment ils profilent les gens et qu'ils les étiquettent.
Ah bah,
quoi.
Ça, c'est sûr que
si t'on mise la mauvaise étiquette sur ton truc, tu peux genre être genre grave tout respecté, t'iras jamais quoi.
Bah, de toute façon, enfin, là, sur les étiquettes en particulier de terroristes et tout, y a tout le truc de même si tu te comportes trop bien, on dit que t'es en train de cacher. Donc voilà. Et c'est la même chose pour plein d'autres étiquettes et tout qui sont foutues. On va passer un petit coup de musique.
Je fume, je fais que de maigrir. Passé m'a rattrapé, je croyais que je l'avais largué. La vie c'est moche, faut que j'oublie dans ses cuisses. Je voulais faire le tour du monde. Maintenant c'est le moment, tu veux me tuer, je suis dans les îles. On se dit à dans un mois, l'euro changera tout, croyez-moi. Je suis patient et je crois en Dieu, donc j'attends mon tour. Bloqué dans l'escalier, je les vois dans l'ascenseur. Je vais me faire baiser par la censure. Faut que je le fasse pour mes frères avant tout. Parce que personne croyait en nous, y'a pas de cigario, sans boîte, pas de garage. Dis ramadan, pas carré, ma maman veut, c'est pas carré. Avant je me bagarrais, ils savent des hats, c'est un vaillant. Maintenant ça tue sans dire que c'est la reggae, je peux mourir pour le gang. Le gros, il dira, ça va plus loin que le rap. On a dit vrai de vrai parce qu'on croyait en nous. Là je fonce des sous grigous.
Je fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, tu sais à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2.
Je fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants.
Et je me perds dans des histoires inarrêtables. C'est lequel qui va tuer pour 10 balles. Lendemain d'hôpital, personne saura où tu dors. La vie c'est moche comme les toilettes au mitard. Et c'est pas important, je m'en sors, j'ai pas mon portable. Les amis deviennent des connaissances, je suis choqué par ça. Un Real Barça, Inch'Allah que je fais le Bercy. Je suis trop dans la rue, ils me parlent comme si j'ai percé. Je vais faire ma vie sans toi, tu me verras de loin. Je veux devenir une star comme Alain Delon. Moi je suis resté vrai, j'ai pas donné de nom. L'argent vaudra jamais la parole d'un homme. On fait tous des fautes, qui les reconnaît, qui se prend pour un autre. J'arrête, je recommence, ça peut être j'ouvre un commerce. À la caisse y'a ma soeur, une villa pour ma mère. J'suis comme ton grand frère.
Je fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, tu sais à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. J'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, j'suis aux arrivants, F1-2.
J'fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. J'suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la beuh. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, j'suis aux arrivants, F1-2.
Vous êtes de retour sur, à l'écoute de l'envolée, pardon, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 et hors diffusion un peu partout en France. Je vous rappelle que pour nous appeler tout au long de la semaine, c'est au 07 53 10 31 95. Vous pouvez aussi nous appeler en direct au 01 40 05 06 10. Vous pouvez nous écrire pour vous abonner et autres à fpp-l'envolée 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Vous pouvez nous écrire par mail à contact@l'envolée.net et sur les réseaux Insta, Twitter et Facebook. Salut Biggie.
Bonsoir à tous, salut les auditeurs.
On voulait revenir un peu avec toi sur ton histoire, quoi.
Sur mes aventures.
Sur mes aventures, ce que t'as infligé l'État.
Alors, c'était un jour de décembre, c'était le 5 décembre, voilà, en 2020. C'était pour une manifestation contre la sécurité globale, rapport aux policiers, puisqu'ils voulaient instaurer certaines règles que, bien sûr, beaucoup d'entre nous ne voulions pas. Donc on était avec les gilets jaunes, plus n'importe quel participant de manifestation. Donc manifestation qui était assez difficile quand même, beaucoup de chahut, on va dire. Je suis resté bien calme comme il fallait. On est arrivé sur la place de la République, donc il faisait bien froid, on était trempés, bon, j'avais un peu bu, j'avoue, et un petit peu fumé, donc j'étais pas tout à fait moi-même, on va dire quand même. Et ils nous avaient bloqué toutes les avenues de la place de la République, et il arrive qu'à la fin d'une manifestation, comme à chaque fois, en tant que manifestant, on ne supporte pas de rester bloqué. De toute façon, c'est interdit par la loi.
C'est ça.
Et on a commencé à s'avancer vers une des grilles en leur disant laissez-nous passer. Donc la police n'a pas accepté cette avancée de notre part. De toute façon, on était droit face à un mur, donc il ne pouvait rien se passer. Même si les grilles ont un peu bougé, il n'y avait rien de dangereux pour leur part. Et ils se sont mis à canarder complètement toute la place. Donc on a reculé, et à un moment donné, en fait, dans une grenade lacrymogène, il y a 7 palets, on va dire, comme un palet de hockey. Et ils sont tous tombés devant moi. Et impossible de respirer, je ne pouvais pas respirer. C'était devenu carrément l'enfer pour moi. Et juste un réflexe, donc je commence à lancer un palet, 2 palets, 3 palets, et bien sûr je ne visais pas la police, c'était juste un geste défensif. Ça se trouve j'ai même tiré sur mes camarades sans faire exprès, je peux pas dire. Et au 4e palet, en fait c'était une grenade de désencerclement, parce qu'elle fait exactement elle dégage autant de fumée qu'un palet lacrymogène. Bon, bien sûr, on le sait très bien, dans une manifestation on ne doit pas ramasser quoi que ce soit. Mais c'est un geste défensif, c'est un geste de survie, quoi. Donc sur le moment même, j'entends plus rien, puisque bien sûr je me la prends pas trop loin de la tête. J'ai de la chance, j'en ai perdu que ma main droite et je suis pas défiguré. Je suis toujours aussi beau gosse, heureusement. Et du coup, j'ai pas mal. En fait, je commence à entendre derrière moi des petits bruits, parce que j'entendais rien, puisque ça m'a complètement percé les tympans. Donc les 2 tympans étaient percés. Donc ça a mis un mois à se réparer déjà, en plus de ma perte de main. Et je vois mes copains qui courent après moi, en fait. Ils me montrent en fait ma main. Et là, en fait, je perçois du sang qui gicle de tous les côtés. Donc je me fais un autogarrot moi-même avec mon écharpe. Et on essaye de me mettre un peu plus loin, de m'allonger. Mais j'ai pas ressenti de mal. Mon corps a fait un rejet du mal, en fait, quoi. Et le temps que les pompiers viennent, tout ça, ça a mis plus d'une heure. Les pompiers, ils ont commencé à essayer de couper ma doudoune, parce que j'avais une doudoune, mais toutes les plumes allaient sur ma plaie. Je leur disais, mais attendez les gars, là, ça, c'est pas très propre tout ça. Donc le SAMU est arrivé, tout ça. Donc opération directement à l'hôpital Saint-Antoine. D'ailleurs, merci, parce que un très bon service de chirurgie, quand même, il faut le dire. Et directement, moi, je leur fais, de toute façon, je pense que là, on va couper ma main. Il me fait, non, vous allez voir, on va vous sauver tout ce qu'on va. On va faire, on va vous sauver la main. Je dis, ouais, moi, j'y crois pas trop. Donc, ils me font une radio. Là, je vois qu'il manque un doigt. J'ai les doigts à droite, à gauche, en équipante. Enfin, bon, voilà. Donc, je me réveille au petit matin. Tac, directement, la police arrive à 8h. Bonjour, c'est nous.
C'est quand même un truc de ouf, parce que le nombre de personnes blessées qui raconte ça, ce fait des coups de pression des flics dès le
matin,
premiers instants.
Et il y en a qui sont placés en garde à vue.
Ouais.
Sabri il allait se faire opérer de son œil, et le matin il allait partir pour l'hôpital, la police débarque et le font la garde à vue. Et la garde à vue passe parce que le médecin dit qu'il peut faire une garde à vue alors qu'il a un œil en moins, qu'il vient juste de perdre son œil, et il a dit qu'il était apte pour une garde à vue, donc c'est hors sol quoi.
C'est Laurent qui racontait la même chose, mais c'est vraiment de la folie quoi. Et ouais, et là ils sont particulièrement ignobles.
Ils sont pas très gentils, ils m'en mettent plein la tête. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que c'est toi qui as ramené là? Je fais, moi j'ai rien ramené. Du coup, ils me montrent une photo, ils me font, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur cette grenade-là, il reste le contenant, enfin ce qui tient la grenade de l'intérieur, n'explose pas, c'est du Kevlar ou je sais pas quoi. Et ils me font la question, est-ce que c'est bien votre doigt? Bon, j'avais un doigt collé dessus, quoi. Je lui fais, mais excusez-moi, mais on dirait une saucisse knacky qui sort du micro-ondes, quoi. Je fais, comment vous voulez que je sache si c'est mon doigt? Je connais pas mes empreintes, enfin, je suis resté un peu sur le cul, donc ça a duré plus d'une heure. Avec des questions dans tous les sens. Pourquoi? Qui? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes anarchiste? Vous êtes quoi? Vous êtes révolutionnaire? Je fais non, je suis juste manifestant. Enfin, voilà quoi. Donc, de là, je perds la boule. Je reste quand même assez fort pendant une certaine année, on va dire. Hein.
Juste peut-être avant ouais, de. Pardon. Non, t'inquiète. C'est juste. C'est quand même. Enfin, alors, tu dis la Saint-Antoine, ils t'ont soigné correctement et tout ça, mais que des médecins autorise quand même des flics à arriver et à entrer dans les salles là, tu vois. Moi je trouve ça scandaleux.
Je suis même pas sûr qu'ils savaient que, enfin ils ont dû demander est-ce que Monsieur Bellamy, parce que je sais même pas comment ils ont fait pour avoir mon nom ou quoi que ce soit.
Mais
ils sont rentrés dans la chambre comme ça, cash. À peine, j'étais à peine réveillé quoi. J'étais encore à poil parce que j'avais pas mis caleçon, j'avais rien. Ouais. Enfin, c'était un peu hallucinant. Quoi.
Puis il y a sans compter qu'il y a pas mal de blessés à qui c'est arrivé, ils sont venus poser des questions, et soit ils venaient de subir leur première opération et qu'ils étaient à moitié amorphes sous anesthésie, ou quand on est sous morphine, des choses comme ça. Enfin, on est incapable d'avoir une vraie discussion et d'être cohérent dans ce qu'on dit, et c'est ça que je trouve hyper choquant. Enfin, moi, heureusement, ils ne sont pas venus, mais s'ils sont venus, je crois que c'est un truc qui m'aurait fait vraiment câbler de voir la police et de. Enfin, vous venez de me tirer dessus, vous venez me voir, laissez-moi tranquille. Quoi. Et en plus, profiter de la blessure et de. Du moment où la personne est la plus fragile, en fait, parce que bah, tu te rends compte que tu as une blessure, tu es shooté aux médicaments, donc bah, forcément, tu vas dire des trucs qui sont incohérents, qui, eux, vont retenir en plus après, par la suite, pour ton dossier, bien sûr. Hein. Et je trouve ça vraiment honteux de leur part. Et si il y a des médecins qui donnent les autorisations, ce qui ne m'étonnerait pas, hein, parce qu'on sait très bien qu'aussi la police part avec les dossiers médicaux, ça arrivait plusieurs fois, moi, ça me choque que les médecins donnent l'autorisation. Mais on sait, par exemple, que pour les Gilets jaunes, on était fichés dans les hôpitaux. Donc forcément, nos noms, ils étaient notés, forcément, ils savaient où nous trouver. Et c'est ce qui est malheureux, c'est que même quand on est mutilé, on ne peut pas être tranquille pour être soigné. Quoi.
Ouais. Tout à fait. Et donc, en fait, ce qui s'avère, c'est que j'avais quand même un gros pansement au bout. Donc, et j'avais encore toujours l'impression d'avoir ma main, puisque en fait, tout au début, j'ai les membres fantômes, ça s'appelle. Donc je ne comprenais pas trop, en fait, parce qu'il m'avait quand même montré cette grenade avec le doigt. Mais moi, avec ma sensation de mon fantôme, j'avais quand même la sensation encore d'avoir ma main. Et en fait, c'est juste au moment où ils m'ont enlevé, peut-être 4-5 jours après, cette bande, où là, j'ai vraiment eu cette image de perte de main, quoi, parce que j'avais encore ces membres fantômes. Mais j'ai eu de la chance dans cette opération. Je suis tombé sur des nouveaux chirurgiens qui ont fait je ne sais quoi avec les nerfs ou je ne sais quoi. Et il y a un nouveau système qui permettrait, enfin, qui, moi, a permis que de nos jours, je n'ai plus ces membres fantômes, okay. quoi. Sauf après, quand de temps en temps je suis un peu fatigué ou autre, ou aussi je force un peu à essayer de dire tiens, là je bouge mon pouce, mon index, machin. Et voilà. Et en fait, je voulais surtout remercier, c'est pour ça aussi que je suis là, grâce aux mutilés, par exemple.
Ouais, parce que si tu disais là, donc voilà. Pendant un an, t'as à peu près tenu.
J'ai un peu tenu, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant cette opération, je suis resté 15 jours à l'hôpital. Alors attendez, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà. Donc, et au bout de 2 jours, j'ai cette association dont je fais partie maintenant, les Mutilés pour exemple, dont je suis venu avec Vanessa, qui est venue me voir à l'hôpital. Et grâce à eux, bah, en fait, j'ai pu avancer dans ma guérison psychologique. Parce que ce qui s'avère, c'est que quand tu es blessé par l'État comme ça directement, c'est pas eux qui vont venir t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, les démarches à faire pour la MDPH, pour la CAF ou autre, si en fait mes amis qui sont devenus vraiment mes frères, quoi, ne m'avaient pas expliqué, peut-être que là en fait je serais encore chez moi et sans indemnité, enfin sans quoi que ce soit, quoi. Donc je remercie quand même ces personnes qui sont venues me soutenir et m'expliquer ce qui leur est arrivé, parce que bien sûr tous ces camarades ont été blessés comme moi, dont Antoine à Bordeaux, Vanessa qui a perdu son œil plus une partie de son cerveau malheureusement, enfin voilà, et il y a une grosse solidarité, et donc ces personnages je les remercierai jamais assez. Et donc ce qui s'avère, c'est que ça faisait 20 ans que moi je travaille, je travaillais pour l'IFOP, j'étais comme coursier. Donc, bah, coursier, c'est fini, hein. Les scooters à une main, ça n'existe pas. Enfin, pas encore, quoi. Et donc, ça a mis. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau.
Vas-y.
Ça a mis un petit temps, voire une année, pour pouvoir reprendre le travail et tout. Mais en fait, ils n'ont pas voulu de moi, quoi. Ouais. Je pense que même leur politique était peut-être un peu plus à droite pour l'État. Et sachant que j'ai été blessé dans une manifestation, je pense qu'ils n'ont pas apprécié. Parce que six mois avant, je leur avais demandé d'arrêter de travailler. Enfin, bon, ce qui n'a rien à voir. Mais par contre, quand je suis arrivé blessé, on a essayé de me refaire placer dans l'enceinte de la société. Mais ils n'ont pas trouvé de place. Comme par hasard, il n'y avait que des places pour les directeurs, où je ne travaillais pas assez vite. Et que j'allais engendrer des arrêts de maladie pour mes camarades parce qu'ils allaient devoir travailler à ma place. Enfin, il faut le dire aussi ça.
Tu as la responsabilité dessus.
Oui, ouais, bien sûr.
Parce que c'est toujours toi qui dois être responsable des trucs.
Voilà. Et en plus de ça, je tiens quand même à le dire, ils m'ont donné une certaine somme, mais ils m'ont bien fait signer un papier comme quoi je n'avais pas le droit de les attaquer en prud'homme, bien entendu.
Ça fait partie des donc, joyeusetés.
Voilà. Et au bout de 3 ans, j'ai un avocat que justement les mutilés, pour exemple, m'ont conseillé. Je remercie d'ailleurs Madame Chloé Chalot. Voilà.
Ouais, on dit rarement les bases d'avocats à l'antenne, mais s'il y en a une qui... Non, t'inquiète pas. Mais s'il y en a qu'on sait qui font vraiment bien le taf, on n'hésite pas aussi à le dire. Et il y a plein d'avocats qui ont défendu des blessés dont on dira jamais le nom. Autant mais autant Chloé Chalot, on n'hésitera pas à le dire, parce que c'est très rare de tomber sur des avocats avec aussi peu d'intérêt personnel et qui ne montre jamais sa face, qui voilà, et qui est toujours derrière, qui soutient les gens, qui va pas faire chier les gens quand les gens, qui continue à suivre les affaires sans faire chier les gens quand les gens disent psychologiquement j'ai pas trop envie d'être dedans, voilà, mais je reviendrai quand il y a besoin, et elle continue à faire le taf sans qu'il y ait besoin de la rappeler, voilà, et qui quand t'as besoin de le faire et d'en parler et d'être active dans ton dossier, elle ouvre les dossiers et tout, et c'est trop rare pour qu'on puisse le souligner.
Et puis c'est une avocate qui est très humaine, et c'est hyper important d'avoir un avocat qui est humain, que ce soit pour un décès ou pour une mutilation ou des violences policières, parce qu'on est meurtri, et quand on a un avocat qui est complètement froid ou qui s'en fout, ça joue en fait. Et donc là on peut lui faire confiance qu'elle est humaine, elle est militante, et puis elle connaît malheureusement bien le sujet, quoi.
C'est tout à fait, ouais.
Mais et donc ouais, vous avez commencé des démarches.
Voilà. Alors du coup, on commence à lancer une enquête. Et cette enquête, en fait, elle a pris un certain temps, même un temps certain, j'ai envie de vous dire, puisque j'ai eu que le résultat que l'année dernière, et bien sûr un classement sans suite. Donc, ce qui s'avère, c'est que pendant ces 3 ans-là, moi, j'ai suivi quand même pas mal de mes camarades qui allaient au tribunal suite à leurs affaires. Et en fait, moi, je vous avoue que vu comment l'État se comporte par rapport à des gens comme nous, meurtris, blessés, que ce soit psychologique ou enfin de tout, et en plus, à l'intérieur de toi-même, tu as envie que quand même que cette histoire passe, c'est-à-dire que t'as déjà, t'es assez meurtri tous les matins à te regarder dans ton infirmité. Voilà, après, c'est à chacun d'être fort et d'avoir un soutien, dont mes camarades et mes amis proches, bien entendu. Et ça a mis un temps certain, donc classé sans suite, ou 3 ans et demi quand même, hein, pour faire une enquête alors qu'il y avait toutes les caméras, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, le côté pénal, bah, moi, pour moi, j'ai vraiment pas envie de le vivre. Vu comment j'ai vu mes camarades souffrir après leur problème.
Ouais, parce que
problème,
t'es souvent allé au procès. Bien sûr, soutien
on se soutient entre frères, quoi.
Bah, dès qu'il y a des procès, dès qu'il y a des choses qui se passent au tribunal, on se doit d'être présent parce que quand, en fait, il faut savoir, quand c'est des violences policières, la moitié de la salle du tribunal est remplie de policiers. Bien donc sûr. Il est hors de question de laisser un mutilé seul devant autant de policiers, parce que c'est arrivé une fois à Bayonne où Lola justement s'est retrouvée, ils nous ont pas laissé rentrer, elle était entourée de policiers, ce qui est très compliqué, ce qui est hyper violent, et quand t'as des choses à dire, bah, ça peut complètement te paralyser. Et donc du coup maintenant on vient en nombre comme ils viennent en nombre, donc maintenant c'est ce qu'on fait au procès. C'est aussi dur parce que même si ce ne sont pas nos procès, nous aussi on se mange la claque. Je veux dire, moi à chaque procès je mets un mois à m'en remettre psychologiquement parce que parce qu'on se dit, et nous, parce qu'on est traités comme des moins que rien, merde, comme des coupables, ouais. Donc c'est pas évident, c'est vrai que c'est pas évident, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui arrêtent, parce que c'est dur et c'est un parcours qui est long, qui est très long, parce que 3 ans pour un classement sans suite, c'est aberrant, et pour le peu qui reste, on sait même pas s'il y aura des procès, et là on en est quand même à 5 ans et demi, donc au bout d'un moment on sature aussi. Mais c'est vrai que ce sont aussi des étapes pour certains qu'on doit faire pour pouvoir avancer, oublier. Moi je sais que, bon, j'espère avoir un procès, mais je vais sûrement être classée, mais j'ai besoin de ces étapes en fait pour avancer, pour oublier. Il faut que je passe le pénal, il faut que je fasse l'administratif, et si possible, il faut que j'ai un procès. Sinon, je pense que je n'arriverai pas vraiment à mettre ça de côté, en fait, à tourner la page réellement. Et donc, c'est vrai que c'est hyper violent, et je comprends tout à fait qu'il y en a qui n'aient pas la force, qui n'aient pas envie de se faire encore. Ils ont déjà pris une partie de nous, ils ne vont pas nous prendre plus, quoi.
Donc, voilà, pour ma part, moi, je pense que je ne tiendrai pas cette étape-là de pénal. Par contre, grâce au corps, et encore une fois, merci à ces mutilés, merci à Vanessa, merci à tous mes camarades. Voilà, j'ai pu apprendre le fait d'avoir le tribunal administratif. Donc, je vais m'en occuper incessamment sous peu, parce que ces derniers temps, j'étais un peu occupé. Et là, je vais compter sur quand même cette démarche-là, qui, pour moi, quand même, malgré que j'ai ramassé ou quoi que ce soit, je pense que l'État me doit quelque chose, une main, quoi. Et bah, comme j'avais déjà un travail, j'avais tout. Maintenant, je travaille plus. Enfin, dans quoi je me réinsère, je sais pas spécialement. Enfin, il y a beaucoup de travaux, où tu as besoin de tes deux mains. Enfin, tout est une question de difficulté, quoi. Et d'ailleurs, la première année, j'étais très très bien dans ma tête. Mais la deuxième année, je vous l'avoue, j'ai bouffé des cachets. J'ai voulu ne pas me réveiller, quoi. J'ai la chance encore d'être là, de m'être réveillé, de m'être loupé. Merci la vie. ça peut arriver. Enfin voilà, il y a des moments de doute. Et mais maintenant j'ai envie de me battre. Et maintenant voilà, souvent même ma mère elle me fait, alors tu vas faire quoi? Ben, je sais toujours pas vraiment quoi. Enfin, j'avais déjà mon boulot, j'avais ma vie qui était classée, quoi. Donc c'est pas facile. Donc
c'est ça, voilà. Le problème, c'est que l'État nous mutile. Et nous, l'État nous handicape, et après on doit se débrouiller avec cet handicap. Donc il faut trouver comment tu peux avoir tes aides, faire un dossier MDPH sur Paris, c'est plus d'un an d'attente, donc en attendant c'est pas de revenus ou être au RSA. C'est pas mal de choses comme ça, de démarches où il faut se débrouiller, il faut trouver des assistantes sociales, il faut trouver comment manger, il faut trouver qu'est-ce qu'on va faire, quel est notre futur projet. Rien que remplir un dossier MDPH, quand il y a la liste de ce que tu es capable de faire et plus capable de faire, c'est hyper violent. Moi, il m'a fallu plus d'un an pour le remplir, parce que ça brise encore plus. Et donc l'État, après, nous laisse comme ça. Et il ne faut pas croire que quand on est handicapé, c'est Byzance, et c'est bonheur, au contraire. On a très peu de droits, et c'est toujours des papiers, c'est toujours des démarches à faire, et c'est très long, et on a très peu d'aide. On ne sait pas où on peut chercher de l'aide, et on n'a pas une liste de trucs où on dit, bah tiens, tu peux aller voir à la CRAMIF, des assistantes sociales, ça, on ne sait pas, on le découvre par nous-mêmes, et souvent on baisse les bras. Moi, j'en suis à cette étape-là encore, quémandée pour mes droits d'handicapé, où je suis en train de perdre pas mal de droits, et c'est épuisant. Et en plus, bah, faut la mutilation, faut essayer d'oublier, donc l'État nous handicape, mais en fait on devrait avoir quand même des aides après qui puissent nous permettre de s'en sortir plus facilement, et pas que les personnes mutilées, je parle des personnes handicapées en général, où c'est un long combat pour gagner 3 clopinettes. Et estimez-vous heureux, limite quand on est RSA on a plus de droits que quand on est une personne handicapée. Donc c'est très compliqué, donc tout ça aide pas. Et comment on peut se dire que dans telle entreprise ou à tel endroit il va y avoir des boulots pour les personnes handicapées? Ça existe, mais il faut savoir où frapper à la porte, quoi. Et des fois, c'est un peu lourd de faire les démarches nous-mêmes. On aurait besoin d'un coup de main. Enfin, je pense que les personnes handicapées en général ont besoin d'un coup de main pour tout, parce que on ne sait pas à quoi on a le droit. Et beaucoup finalement finissent par rester chez eux en grande précarité, avoir plus personne, à s'isoler. Et souvent, ça finit mal, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant du dossier MDPH. Donc à l'hôpital, je suis tombé quand même sur une assistante sociale qui m'a aidé à faire justement le dossier. Elle m'a dit, t'inquiète, je m'occupe du dossier. Et elle me dit, ça met un certain temps, quoi. Donc un an, donc je ne m'inquiétais pas. Puis bon, quand même, à ce moment-là, je sortais avec une chérie. Et elle me dit, mais t'en es où? Je fais, j'attends, on m'a dit que c'est un an. Et donc je vais quand même voir la MDPH. Je fais, excusez-moi, voilà, monsieur Bellamy, je vous ai envoyé un an mon dossier. Il me fait, il n'y a pas de dossier. J'ai commencé, il n'y a pas de dossier. Donc, soi-disant, je vais voir quand même l'assistante sociale. Elle me fait, vous avez bien envoyé le dossier. Elle me fait, oui, regardez. Donc, elle me redonne la photocopie de tout, quoi. Donc, je retourne les voir. Je fais, regardez, on l'a envoyé un an. Et en fait, ça n'a pas pu marcher, quoi. C'est-à-dire que je suis revenu les voir en leur disant que ça fait déjà quand même un an. Je fais, on peut peut-être accélérer. Et non. Donc, ça a mis 2 ans avant que je puisse bénéficier de la CRAMIF qui me donne 850 € par mois. Et encore, si jamais je dois travailler, c'est la moitié, c'est le pourcentage de heures que je travaille. Et d'ailleurs, il m'est arrivé une petite galère. Je touchais en plus un peu de sous de la CAF qui me demandait si je travaillais, mais moi je pensais pas que l'argent de la CRAMIF c'était un travail, donc je déclarais pas. Là je leur dois 12 000 €, quoi. Donc,
moi 7 000, ils aiment bien nous mettre des amendes.
Voilà, donc c'est aussi là, ça.
C'est que l'État, c'est aussi tout ce qui représente l'État, la CAF, tout ça, nous mettent des amendes, ils sont sur notre dos tout le temps et ils nous mettent des amendes. Et on est pas que les mutilés, beaucoup de militants, avoir eu des amendes de la CAF de trop perçu, ou quand on touche la MDPH, on peut pas avoir un trop perçu. C'est un minima. Donc, moi, 7 000 €, lui, des sommes, c'est extraordinaire. Et on nous reprend de l'argent sur le peu qu'on a déjà. Et il y a plein de militants qui vivent ça, en fait, des contrôles de la CAF, de la sécurité.
Plein de pauvres, de manière générale. Franchement, ça, c'est vraiment les bails de, entre guillemets, trop perçu. C'est vraiment l'un des trucs les plus violents qui peut exister. Et donc je pense que pour les allocs MDPH et tout, en fait, ils n'ont pas le droit de les ressaisir. Pour le RSA, ils te reprennent directement et ils te le
versent. Moi, ils me les ressaisissent.
Ah oui, ils te les ressaisissent.
Moi, je touche comme lui l'invalidité et j'ai un complément en fait de la MDPH pour que ça fasse la somme totale en fait. Voilà. Et donc sur les 100 € qu'ils me versent tous les mois à la CAF, ils me prennent 85 €.
Ils me redonnent quand même encore 15 € par mois,
oui,
alors que je leur dois 12 000. Enfin, je fais.
Et après, ils vont lui demander les 15 €.
Donc, c'est pas facile. Donc, voilà, c'était ma petite histoire.
Non, mais c'est. En tout cas, franchement, je pense que c'est cool d'avoir le courage d'en parler.
Merci à vous de nous recevoir et justement de nous laisser la parole et d'expliquer un peu de tout ce qui se passe, quoi.
C'est ce pourquoi on le fait. Et puis, on sait que c'est toujours des moments. Délicat quand on en cause et tout.
Mais ça fait aussi du bien d'en parler.
Ouais.
C'est double combo. Voilà.
Peut-être revenir un peu sur la judiciarisation et tout ça, parce que en fait c'est quand même un truc. Tu vois, nous ici on en parle beaucoup. Ça a été un truc un peu neuf pour nous à l'envolée d'être du côté de ceux qui attaquaient et pas parce que pour généralement les gens on était de l'autre côté du box et tout ça. Et pour rappeler en fait l'intérêt de ces différentes étapes dans les types de procès. Enfin, on en parlait l'autre coup et tout ça. Et l'avantage qu'il y a de au moins commencer par le pénal, parce que ça permet de payer toutes les expertises et tout, parce qu'en fait il y a ça aussi, c'est que ça va être toujours un processus qui va être hyper long,
très long,
et tout, notamment parce qu'il y a des expertises où je renvoie à l'émission avec Laurent Théron là-dessus, parce que on en avait vraiment beaucoup parlé, mais à chaque fois c'est extrêmement violent ce qui se passe, parce que t'es ce que vous disiez tout à l'heure, t'es jamais considéré comme étant une victime.
Non. Moi je retournais au pénal, c'était encore minimum encore 3 ans, le temps qu'un nouveau juge, ou je ne sais plus comment exactement ça s'appelle, qu'une personne reprenne le dossier et qui ne fasse pas partie en fait vraiment du service policier. C'est-à-dire que là, j'ai été jugé par la police quelque
part.
Par l'IGPN. C'est l'IGPN qui a classé. Par un vrai juge qui s'en fiche en fait de savoir pourquoi qui fait son vrai travail quelque part.
Bah, y en a un peu les trois quarts des juges quand ils lisent le dossier IGPN ils actent.
Ils ne demandent pas des actes, ils ne demandent pas des enquêtes.
Je crois que je dois être une des rares où c'est la juge qui a pas écouté l'IGPN qui a dit c'est des conneries, on relance l'enquête. Mais ça arrive. Enfin, une juge qui fait son boulot malheureusement, il y en a de moins en moins. Et sinon c'est ça. L'IGPN dit qu'ils ont rien trouvé alors qu'ils ont toutes les preuves. Hein. Ils ont les vidéos, ils ont moi le gars de l'IGPN disait à mes témoins ah bah tiens on a les cinq tireurs, on a les machins. Et puis après ils trouvent pas de tireurs.
Après, moi, je pense qu'ils font leur boulot. Hein.
C'est
ta juge qui a pas fait son boulot. Non, non, mais c'est vrai. Je veux dire, en fait, objectivement, enfin, je veux dire, en fait, c'est le même corps d'État. En fait, ils vont s'autodéfendre. Et en fait,
ah oui, ils s'autodéfendent entre eux, quoi.
Les juges sont là pour foutre les pauvres en prison et puis protéger les flics.
Quoi, je veux dire, on est bien d'accord.
C'est leur rôle, quoi. Enfin, je veux dire, là, j'entendais encore aux infos avant-hier qui se réjouissait à Bobigny d'ouvrir une troisième salle de comparution immédiate qu'ils ont ouvert pendant les JO et qu'ils vont laisser ouvrir après. On sait très bien que c'est salle de comparution immédiate. Voilà. Donc là, ils ont eu du budget pour ouvrir cette nouvelle salle de comparution immédiate et pas pour foutre des juges qui enquêteraient contre les keufs. Quoi. Donc ces salles de comparution immédiate, c'est l'abattage.
Bien sûr.
On envoie tous les pauvres et les étrangers.
Moi, j'ai même le nom de la personne qui a envoyé la grenade, quoi.
Ah oui, mais on a les noms, on a toutes les infos.
Pas de problème.
C'est ça le pire, c'est que quand on a le nom du policier ou du gendarme, on se dit ils ont quand même des preuves, ils ont quand même trouvé. On dépose plainte quand même pour violence et en fait, juste le fait, par exemple, qu'il y ait deux policiers, bah, ça va pas aller plus loin. Mais un tir dans le visage, par exemple, est toujours illégal. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'il faut déposer combien de plaintes pour tomber sur le bon terme, parce que ça, c'est un peu ça, ça se joue comme ça, sur le bon terme qui va faire que ça va avancer. Et on en est là à chercher comment. Moi, j'en suis là à me dire bon, bah là, je vais me prendre un non-lieu. Comment je peux faire pour les faire chier? Parce que clairement, vous voulez me faire chier, je vais faire pareil, pour les foutre au tribunal. Et j'ai besoin de les voir, ce flic et ce gendarme. Et ben, on va devoir déposer des plaintes sur le tir en mouvement, par exemple, ou sur le tir dans le visage. Et là, comme ça, je suis sûre que les deux se retrouvent au tribunal. Et alors, j'aurais sûrement pas de gain de cause, mais au moins, je les aurais fait chier. Et je les aurais vus, j'aurais dit ce que j'ai à dire. Mais voilà, je repars pour des années, quoi.
Et moi, ce qui s'avère un peu embêtant, quand même, c'est que la manière dont la personne a jeté cette grenade, elle a jeté en l'air. Et normalement, c'est à terre. Et comme, en fait, il y avait vraiment les grilles devant lui, c'est que déjà, il était en tort. Et à côté de ça, c'est quand même classé sans suite. Donc, en fait, il y a plein de choses. Et comme je vous dis, enfin là, vous voyez, ça me reprend un peu en cœur. Mais j'ai pas envie de revivre ça, de l'affronter. Et en plus, malheureusement, c'est qu'ils ont, pour eux, 100% raison. En fait, c'est ça. C'est que malheureusement, même si on a toutes les preuves, on part vachement perdant, quoi, en fait.
Donc, même dans cette au dédommagement, ils peuvent retirer de l'argent parce qu'on a un endroit où ça caillasse. Tu caillasses pas toi, mais t'as un endroit où c'est un peu le bordel, bah, tu vas avoir 20% en moins, 30% en moins. Donc, c'est honteux. Là, c'est David, du collectif, justement. Lui, par terre, en fait, il voit que les flics chargent. Donc, il part avec sa copine. Donc, il part dans une petite rue. Donc, il est pas là où ça caillasse. Et là, il se fait exploser le nez par un LBD. Mais vraiment, le nez qui fait un angle droit sur la joue, le nez est explosé. Et là, bah, ils vont lui reprendre 20% sur sa future indemnité parce qu'il était là où ça caillasse. Il partait. Donc c'est il y a plusieurs mutilés où c'est ça où encore là on dit vous étiez coupable d'être là quoi alors que pas du tout.
Puis c'est d'une violence énorme sur le fait de te rendre responsable en fait de la blessure qui t'est infligée par l'État.
Oui, puis de leur propre violence aussi. Enfin, c'est jamais leur propre violence.
Ah non, jamais.
Retourner la violence du côté des autres, en fait. Et après, toi, tu te retrouves à te justifier de où t'étais en manif, alors qu'en fait, c'est leurs armes de base.
Bien sûr.
Et c'est eux qui.
Et même quand il n'y a pas de raison, ils arrivent quand même à trouver X ou Y raison en disant que le tir est légitime. Moi, on parle d'un petit bout de bâton qui a été jeté sur un flic qui ne s'est même pas retourné. Il n'a même pas percuté qu'on lui avait jeté un truc dessus. C'est les deux collègues derrière qui me tirent dans le visage après. Enfin, même l'expert balistique qui dit que niveau proportionnalité, il n'y en a pas, quoi. Il ne se passait rien. Mais là, ça va être encore moi qui étais au mauvais endroit, là où ça jetait le bâton, là où, alors qu'il ne se passait rien du tout. Et c'est hyper violent. C'est vrai que c'est hyper violent. Enfin, je ne me suis pas bousillé le cerveau, je ne me suis pas crevé l'œil tout seul, il ne s'est pas coupé la main, quoi.
Moi, donc, en gros,
c'est
en fait.
Il est coupable.
En gros, il me reproche d'avoir rejeté quelque chose. Mais comme j'explique, je ne respirais pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je meurs asphyxié et voilà, ou qu'est-ce que, enfin, ou bien sûr j'aurais dû peut-être me reculer, mais sur le moment même je pouvais pas, enfin c'était juste de l'autodéfense quoi.
Même il y a beaucoup de, parce que pour les gens qui ont perdu une main, souvent ils sont accusés d'avoir voulu rejeter la chose, voilà, sur la police. C'est totalement faux. Pour ceux que je connais, que ce soit Antoine, que ce soit la fumée, ils pensaient que c'était un fumigène en fait, donc ils ont juste voulu décaler le fumigène. C'est le seul acte qu'ils ont fait, c'est, ils n'ont pas voulu jeter, ils ont voulu décaler le fumigène parce qu'ils en avaient plein la tronche, et là ça pète. Donc non, ils n'ont rien fait, ils n'ont attaqué personne, c'est juste, bah voilà, c'est un réflexe en fait. Et en plus, bah, malheureusement, quand tu pousses un truc, tu le fais avec ta main que tu utilises tout le temps, donc malheureusement, bah, après tu te retrouves à avoir la main que tu utilises, tu ne peux plus écrire, tu ne peux plus rien faire.
Et même psychologiquement, j'ai même envie de vous dire, si, imaginons vraiment, j'avais remarqué que c'était une grenade, je ne me dis pas, tiens, il va me rester deux secondes avant que ça explose. Enfin, c'est improbable. Enfin, c'est...
Oui, puis il faut replacer dans la confusion du moment, en fait, où tu as deux secondes pour réfléchir, mais, et en fait, juste tu réfléchis à ta propre survie, voilà, sur le moment, et en fait, il n'y a même pas à se justifier sur ça. Enfin, je pense que là...
Oui, mais on est obligé. Finalement, c'est même ça, au tribunal, tu es obligé de dire, mais non, mais moi, je faisais rien, je ne suis pas méchante, j'étais sur le trottoir tranquillement, vous avez les vidéos, vous avez ci, vous avez ça...
Les premières questions que te posent les keufs à l'hosto, là-dessus, elles sont hallucinantes. Quand ils te demandent si t'es anarchiste, révolutionnaire, voilà, tout ça. Enfin, mais c'est un truc, c'est vraiment, c'est là où tu vois vraiment leur ignominie. Enfin, tu le vois dans tout, hein, parce que leur violence en manif et tout. Mais ce truc de, eux, ils savent déjà que le moment où ils sont en train de t'interroger, c'est comment après, derrière, ils vont te niquer au tribunal. Et ça, ils l'ont en tête dès le début, et ils construisent toute leur enquête, tous leurs faits et tout ça, exactement là-dessus, quoi. Et là, les questions qu'ils te posent, c'est, je sais comment je vais pouvoir l'utiliser après, derrière, devant des juges, pour pouvoir te dire que cette personne était mal intentionnée. Et voilà. Et c'est toujours ce truc de qui est, on et c'est quand même un truc qui est assez ouf, je trouve, en particulier, enfin, de manière générale, avec la justice, c'est cette question de l'intention, et comment, en fait, les juges vont, à travers deux, trois petites phrases tirées dans des PV à gauche, à droite, décider que l'intention, elle va être mauvaise. Voilà quoi. Et ça a un impact hyper fort quand t'es accusé. Voilà, parce que les accusations d'intention, en fait, elles sont très 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 régulières, voilà. Et ça, c'est un truc que t'as aussi sur les victimes, voilà quoi. Et ça a pu être combattu sous certaines formes quand on reprochait aux meufs d'avoir une jupe trop courte, et donc elles avaient pas la bonne intention à ce moment-là, et tout. Enfin, elles auraient eu l'intention d'aguicher ou je sais pas trop quoi, parce que dans la tête malade d'un magistrat. Et de la même manière, là c'est la même chose. Et donc ça leur permet de s'éloigner des faits factuel que toi tu décris, où en fait il y a un jet qui est illégal, tout ça, il y a une violence de leur part, et vu qu'il y a des mauvaises intentions, que la justice aura déterminé que ça soit ça, et ben on va pouvoir dire, ah ben les faits, en fait, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important, et on va pouvoir réussir à soit condamner des gens d'un côté, soit
classer
sans suite, et puis protéger les keufs de l'autre, quoi. C'est en ça où, enfin, tu vois, voilà, la justice, elle fait son travail là. C'est le truc qui est relou, mais on décrit une justice qui doit défendre la veuve et l'orphelin, et protéger contre les oppresseurs. Enfin, là, dans le cas pour vous, les oppresseurs, c'est l'État, mais ça, c'est pas envisageable pour l'État, quoi.
Bah non, on touche pas à l'État. Hein.
Faut c'est lui pour ça qu'aussi que nous, en tant que cette association, les mutilés, pour exemple, on prône cet arrêt de grenades, de LBD, parce que c'est des armes de guerre déjà, et que c'est pas possible d'arriver à mutiler son peuple, quoi.
On parle des mutilés puis des revendications après un petit coup de musique.
Allez,
cool.
Bonsoir.
Parler de Dunia, mais aujourd'hui je suis fire. Rata à la playa, Babenia ma bella.
L'Afrique c'est mieux que Pattaya. Fais-tu de la veille, elle a délaissé Marbella. Tout en va, Babenia ma belle.
J'ai que Dunia l'imaginal dans un seul au village. On va divers histoires de noyer ma belle.
Pop, 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 frérot, je sais, mais je fréquente cette fille qui s'appelle Dounia. Toc, 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 les keufs cassent la porte. Je rentre, je ressors, je pars à Médina. C'est ma vie.
Ma vie, la vie d'Aloca.
C'est ma vie. High Slam, c'est Yoga Daga.
Dans nos têtes, c'est la guerre, c'est pire qu'à Sarajevo. C'est Mister High, c'est Lionos, Prostarna, c'est vous. Je voulais sortir avec Dounia, mais les chats prenaient pas aux oreilles. Savant le shit et la cocaïne. Sur te fume pas trop handicapé. Que Dieu m'en soit témoin. Le bonheur est dans le pré. Le malheur est dans le loin.
Ils font pas causette avec les misérables.
Tant d'oseilles mais je me sens si vulnérable.
En retard à mes funérailles.
Je revends le funérail.
Oh, j'ai repris des mois sur ma peine. Oh,
un petit verre histoire de noyer ma peine.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel et en diffusion un peu partout en France tout au long de la semaine. Pour nous appeler sur le direct, c'est le 01 40 05 06 10 et sinon le bigot tout au long de la semaine, le 07 53 10 31 95. Pour nous écrire, c'est fpp-l'envolée 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris, contact@l'envolée.net si vous voulez nous écrire par mail, et les réseaux sociaux Insta, Facebook et Twitter. Donc, on voulait continuer un peu sur les mutilés, donc il y a vraiment cet aspect énormément d'entraide et tout ça que vous avez quand même, et puis il n'y a pas que ça, donc vous parliez d'interdire toutes les armes.
En fait, chaque année, avec cette association, on essaye de faire une manifestation, que ce soit à Paris.
Une marche,
et on marche dans toutes les villes. La dernière, c'était à Toulouse.
Ouais.
Avant, c'était à Paris, donc on essaye d'aller un peu partout. Et justement, on marche pour expliquer qu'on ne veut pas de ces armes létales, tout simplement, et de se montrer nous-mêmes en tant que personnes mutilées, bien entendu.
Oui, parce que ces armes n'ont rien à faire là, c'est des armes de guerre, elles n'ont rien à faire en manifestation. Une grenade n'a rien à faire en manifestation, enfin même au maintien de l'ordre ou dans n'importe quoi. Hein. Les LBD n'ont rien à faire ni dans les mains de la BAC, ni pendant les manifestations. Et c'est quand même des armes, alors le LBD n'est soi-disant pas létal, mais il y a quand même eu deux morts avec un tir de LBD dans le thorax. Donc là, je rappelle aussi qu'avant on était à plus de 10 mètres de distance, ils l'ont baissé à 3 mètres. Moi, ils m'auraient tiré à 3 mètres, je ne serais pas là en train de parler. Donc là, je pense qu'on va commencer à compter les morts, quoi. C'est ça qu'ils veulent. Et en plus, on le fabrique, donc c'est tout business pour nous. Et maintenant, on commence à le fournir dans plein d'autres pays pour le maintien de l'ordre, dont la Suède, là, qui vient de me contacter justement pour dire qu'ils fournissent les LBD. Donc, ils veulent en savoir un peu plus, parce que visiblement, ils ont pas mal de contrôle aux faciès, et que maintenant, ils font entrer le LBD en Suède et dans plein de pays. Sauf que peut-être à la différence de la France, c'est qu'il y en a beaucoup de pays qui ont le LBD, mais ils ne l'utilisent pas. En Suisse, ils l'ont dans plein de pays d'Europe, par exemple, mais il n'y a pas de mutilés, en fait. Donc, il y a ça aussi, comment on le gère. Mais en France, visiblement, c'est bizarre. Hein. On l'utilise comme on veut. Et ces armes n'ont vraiment rien à faire de là. Il y a plein d'autres manières d'interpeller quelqu'un que de lui bousiller la vie en lui retirant un morceau de soi, quoi.
Et puis, je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, toutes les armes de la police sont létales. En fait, que ça aille aux flingues, toutes les armes de la police sont.
Et au-delà de leurs armes, même leur technique d'arrest, d'immobilisation et tout, comme on en parle souvent, quoi.
Parce qu'ils ont même pas besoin d'armes pour mutiler. Hein. À Marseille, 2 coups de poing dans l'œil, il a perdu son œil, quoi, par exemple.
Et je tiens à vous rappeler aussi quand même que notre association n'est pas que pour les personnes qui ont été mutilées en manifestation, quoi. C'est vraiment mutilé par la police.
Ou la gendarmerie. Parce que beaucoup pensent qu'on s'est arrêté à aider les personnes mutilées pendant les Gilets jaunes, alors qu'en fait, on s'occupe de tout le monde. Donc, que ce soit en manifestation, que ce soit pendant les émeutes qu'il y a eu avec Naël, que ce soit pendant le couvre-feu qu'il y a eu pendant le Covid. Enfin, il y a, même chez soi, en fait, il y a la petite Myriam qui s'est fait mutiler comme moi. Elle était sur son parking, en bas de chez elle. Donc, ce sont des armes qui sont utilisées partout, n'importe comment, pas que en manifestation, mais dans les stades, dans les quartiers populaires, c'est un grand classique. Enfin, maintenant, on peut être mutilé juste en sortant ses poubelles, quoi. Donc, c'est quand même très grave et ça touche, voilà, effectivement, ça ne touche pas que des personnes, ce que beaucoup pensent, qu'est-ce que vous avez fait, c'est parce que vous êtes militant, pas du tout. Ils tirent sur tout et n'importe quoi, en fait. Donc, c'est ça qui est malheureux et je pense que même eux n'ont même pas conscience, en fait, ou je sais pas, ou ils percutent peut-être pas, ou ils sont trop cons pour comprendre, je ne sais pas, mais ils se rendent compte à quel point leurs armes sont affreuses et ce que ça peut faire à quelqu'un. Si nous, on leur tirait au LBD dans l'œil, peut-être qu'ils y réfléchiraient, je sais pas, mais faudrait peut-être qu'ils prennent conscience de ça. Et sans compter ça, ils nous mutilent, mais après, c'est qui paye nos soins? C'est vous tous avec vos impôts. Et ça, moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal que nos indemnités, ce soit vous qui allez les payer avec vos impôts, c'est pas à vous de nous soigner. Donc ça aussi, c'est des choses qui devraient pas être faites comme ça. Les indemnités, on devrait les avoir par les assurances, par exemple.
Par Castaner.
Exactement.
Plutôt.
Exactement, mais voilà. C'est pas au peuple, en fait, de payer leur bavure. Mais c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, les impôts, ils sont utilisés pour qu'on puisse se soigner, avoir une main, un œil en moins, avoir des soins, avoir... Donc ça, je trouve ça aussi aberrant, parce que c'est pas aux gens qui n'ont rien fait qui doivent payer pour la débilité des policiers. Et je dirais même que c'est le policier qui devrait payer même de sa poche.
Moi, je pense qu'ils en ont complètement conscience hein, de c'est quoi leurs armes et tout. Enfin, tu vois, je veux dire, quand tu avais des préfets qui disaient en terroriser un, enfin, en blesser un pour en terroriser 1000, c'était vraiment une stratégie qui a été mise en place. Quand tu regardes le massacre de Charonne, tu vois, qui date de il y a plus de 50 ans, en fait, c'était vraiment une stratégie de répression, pour faire en sorte que les gens, enfin le 17 octobre 61, c'est la même chose. C'est des stratégies de gestion de la population, des manifestations et des révoltes. Et après, il y a tout un autre aspect qui est la gestion des quartiers populaires, de militaires et tout ça, où là, pareil, en fait, c'est un rapport de force viril mis en place par les keufs de la BAC, notamment, et tout ça, où là, c'est toujours le même truc, quoi. Et peut-être pour continuer sur les armes, nous, c'est un truc qui nous importe. On avait un peu commencé à en discuter, puis on n'a jamais trop continué et tout, mais parce que de plus en plus, au sein de l'administration pénitentiaire, c'est un truc un peu particulier, parce que déjà, dans les tôles, en tout cas, il y a un truc, c'est que les matons ont le droit de tirer sur un mec qui s'évade. Et c'est le seul espace dans la loi française qui autorise un tir et de buter quelqu'un qui ne met en danger personne, soi-disant, et tout.
Oui, donc c'est un refus d'obtempérer, ne mérite pas la mort, on est bien d'accord.
Non, mais il se donne des autorisations dans plein d'autres endroits et tout, et il y a eu plein de lois qui ont été faites pour que de plus en plus ils puissent tuer et tout ça. Et là, il y a vraiment, t'as le droit de tirer sur quelqu'un qui s'évade, qui n'est un danger pour rien du tout, quoi. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il y avait assez peu d'armes, enfin, il y a peu d'armes à feu en détention, à part dans les miradors, et que de plus en plus ils sont en train d'en faire rentrer. Et c'est un truc, ça a été autorisé dans la direction interrégionale Ronald Pauvergne de mettre des LBD. avec ce truc complètement délirant, mais là maintenant que c'est passé à 3 mètres, c'est autre chose. Mais en fait, on était là quand ils mettaient les LBD. En fait, il n'y avait aucun... Enfin, vu l'architecture d'une prison, en fait, tu ne peux pas tirer légalement, tu n'avais pas le droit de tirer un LBD. Voilà, maintenant que c'est passé à 3 mètres, ça devient différent. Mais voilà, et y a eu les Bing Bai, j'arrive jamais à le prononcer là.
Oui, les
petites billes là qui ont été aussi autorisées et tout. Et donc on voit ça arriver de plus en plus en parallèle d'une certaine forme de. Enfin, en tout cas, des nouvelles équipes plus équipées avec cagoules et tout. Voilà. Et l'un des trucs qu'on rappelle assez régulièrement, c'était quand c'était Didier Lallemand qui était directeur de l'administration pénitentiaire, qu'ils ont créé les pires. Ça y est, je vais avoir un trou de mémoire.
ELSP.
Les pires du pire, celles qui sont qui se dé, qui y en a les ERIS, voilà. Merci beaucoup. Les ERIS qui étaient présentés principalement comme étant le GIGN de la prison, mais qui en fait dans la pratique étaient la BAC de la prison, qui sont celles qui se déplacent dès qu'il y a un petit mouvement collectif et tout. Et donc c'est pour ça aussi que c'est un peu important de parler tout ce taf qui est fait sur les armes et tout ça dans une émission comme celle-là, parce qu'en fait ça se diffuse et tout. Et s'il y avait un espace qui était protégé, mais pour une seule et unique raison, hein, c'était que les matons, ils savent qu'ils peuvent se faire piquer leur arme. Et quand tu te fais piquer une arme, voilà, c'était pas par bonté de cœur hein, qu'on interdisait les armes en détention, voilà. Mais c'est qu'en fait les matons disaient non, mais en fait c'est trop dangereux pour nous de laisser des armes en détention, parce qu'en fait ça peut très vite se retourner. Bah d'ailleurs récemment,
quoi, voilà.
Et je crois que c'était il y a moins de 6 mois dans le comico du 13e là, il y a un type qui a récupéré une arme et puis il y a 2-3 coups de feu qui sont partis et tout. Voilà, c'était pas par gaieté de cœur qu'ils le faisaient, mais donc c'est un vrai truc. Mais et donc ils font entrer des nouvelles armes là sur cet aspect soi-disant non létal, quoi, qui est proprement insupportable comme terme, quoi, parce que en fait on sait ça tue les matraques.
Mais même le non létal, les personnes qui soignent par exemple les yeux le disent, c'est une arme carrément létale, quoi, en fait.
Ah bah, c'est sûr.
Les grenades, c'est pareil, ils disent qu'en fait qu'ils ont retiré la TNT pour pas que ça explose, mais ça explose, c'est létal. Donc je comprends pas en fait leur point de vue, quoi.
C'est pour dire que l'arme, elle est pas très dangereuse, en fait. Qu'on utilise une arme, mais elle tue pas. Sur principe, ça tue pas. Voilà. Si ça tue, c'est parce qu'il y a eu des cas exceptionnels, tout ça. Mais non, c'est létal, c'est tout. C'est une matraque en soi-même. Tu peux te dire que ça tue pas. On va dire ça à la famille de Malik Ousekine. Toutes les armes, effectivement, peuvent tuer, mutiler, et c'est juste honteux. Et il faut arrêter de toute façon d'être dans ce rapport de force, parce que c'est toujours un rapport de force. Et ça s'arrêtera jamais, parce que forcément, nous, on dit stop, on n'en veut plus, mais ils s'en foutent. Et en plus, ils arrivent à nous faire toujours passer pour les méchants, parce qu'ils utilisent les médias pour ça. Et donc, les gens commencent à dire, bah, c'est normal, ou quand tu dis que tu t'es fait mutiler, mais qu'est-ce que t'as fait ? Bah, rien, en fait. C'est parce que le Matrix X fonctionne tout à fait. Donc, pour les gens, limite, un LBD, c'est pas dangereux, quoi. Et puis, quand ils arrêtent une arme comme le flashball, ils créent le LBD derrière, qui est encore pire. Donc, ils ont fait pareil pour les grenades. Ils en ont arrêté une, ils ont fait pire. Donc, c'est ça, en plus, qui est encore plus grave. Ils arrêtent une arme en disant, par exemple, le flashball, que c'est pas très... ça vise pas bien, tout ça. Bah ouais, ils font un truc qui est 15 fois pire, où la balle est vrille à l'intérieur, où ça part à 320 km/h, où il y a un viseur, où il y a... Donc c'est pareil, avec un viseur, comment on peut nous dire que le tir il est légal alors que ils nous ont visé dans le visage, par exemple. Donc c'est pas légal, ils savaient où ils visaient. On n'est pas au flashball, c'est le LBD 40. Et c'est ça le problème, c'est que ils disent que l'arme est dangereuse, donc ils l'arrêtent, mais ils font pire derrière, en juste en donnant un autre nom. Donc les gens ils percutent pas que c'est la même arme, mais c'est la même arme. Et c'est violent, et quand même, dans un pays comme la France, on peut s'attendre à avoir des droits et que ce soit un minimum respecté. Bah, pas du tout.
Les droits de l'homme, hein, le pays des droits de l'homme, il semblerait.
À ce qui paraît.
Enfin, c'était.
On disait démocratie aussi, donc.
Oui.
Okay, ouais. Mais ça, c'est sûr que ça fait partie des trucs qui sont complètement hallucinants et tout ça. Peut-être un des trucs sur lesquels il y a peut-être encore une évolution, encore dans le pire, c'est que souvent les armes ou en tout cas enfin par exemple les voltigeurs, ils ont été interdits après Malik Ousseki.
Ouais, ils sont revenus encore plus fort, plus méchants.
Ils nous ont fait la brave.
Ouais, ils sont braves, ils sont braves. Donc ils ont le droit.
Ce que je veux dire, c'est que sur une certaine forme ou d'acceptation du fait que l'État il fasse ses crimes. C'est-à-dire que après Fraisse, la grenade avait été interdite. Alors certes, à chaque fois, elles étaient remplacées, tout ça, mais il y avait quand même l'État qui faisait semblant de faire un truc. Voilà. Là, en fait, ça fait une dizaine d'années où ils utilisent des armes de plus en plus violentes.
Ils commandent encore plus. Ils en commandent encore plus qu'avant.
Et donc, il n'y a plus ce choc qu'il y avait auparavant dans la société. Et moi, ça m'inquiète de ouf hein, quand je dis ça. Hein. C'est juste pour dire, il y a quand même des transformations qui se passent là, où avant, il y avait quand même un moment où l'État était obligé de dire « Ah ouais, là, quand même, on est allé un peu trop loin. » Et bien là, même plus. Quoi. On fait même plus semblant d'arrêter les grenades, je sais plus c'était quelle pour Rémi Fraisse, c'était une grenade explosive, je sais plus trop quoi. On fait même plus semblant de faire ce petit truc de supprimer les voltigeurs ou ce genre de truc. On assume quoi. Et collectivement aussi, mais c'est ce que tu disais, les gens ils ont accepté, ils se font matrixer la tête et tout ça. Il y a un truc où l'État se cache même plus de ces crimes quoi qui met en place et ça fait un peu flipper sur l'avenir et je pense qu'il faut continuer à...
Bah, du coup j'ai envie de te dire même ils s'en lavent les doigts puisqu'ils classent sans suite et qu'il n'y a pas de problème. Et que c'est la faute de la personne qui a été blessée, sans chercher vraiment réellement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, où est l'erreur quoi.
Bah, ils n'assument pas ce qu'ils font tout simplement.
Ouais. Sur cette touche très positive, je vous assure, on se marre bien sinon.
Ouais, ouais,
sinon
on rigole bien.
On a bien rigolé ce soir.
Mais il y a des sujets sérieux à parler. On peut pas toujours rigoler.
mais en vrai, merci de ouf.
Bah, merci à vous de nous laisser parler et de nous laisser nous exprimer pour expliquer un peu ce genre de choses. Quoi.
C'est des paroles hyper précieuses, voilà. Et puis
c'est important pour beaucoup de mutilés de raconter leur histoire. Ils ont besoin de ces étapes-là et il y en a qui l'ont pas encore fait et donc heureusement qu'on a l'envolée pour pouvoir parler. Et c'est un peu plus facile pour certains parce qu'on voit pas notre visage et que certains sont pas encore dans l'acceptation et donc du coup c'est plus facile de parler à la radio pour certains.
Bon, en tout cas, comme d'hab, hein, vous savez que tout le monde est le plus que bienvenu.
Moi dès que je vois de la lumière,
je viens. J'ai l'adresse.
Il y avait un petit peu d'agenda à faire.
Et oui, on voulait vous annoncer donc une soirée qui a lieu samedi soir, qui est une soirée contre la répression du peuple kanak, qui a lieu au 46 rue Laguèze à Vitry, à La Kunda. Et donc c'est demain, donc le 14 septembre, à La Kunda, il y aura des concerts, une cantine à prix libre. Donc voilà, allez-y, ça va être fun. Et on voulait aussi vous annoncer une manif qui c'est contre l'enfermement des personnes sans papiers, qui a lieu donc à Charleroi en Belgique. Et donc cette manif, c'est le 22 septembre à 14h à la place Bussier Charleroi. Et cette manif, elle a lieu parce qu'à Jumette, à côté de Charleroi, le gouvernement donc, belge prévoit la construction d'ici 2028 d'un CRA de plus de 200 places, donc un centre fermé de rétention entre gros guillemets administrative, et qui sera donc un des plus grands centres de détention administrative en Belgique. Et cette manif, elle est aussi en mémoire de Samira Adamou, qui est une résistante sans papier, qui a été tuée par la police en 1998 lors de sa sixième tentative d'expulsion. Donc voilà, cette manif, elle est à 14h le 22 septembre à Charleroi. Et on avait aussi des petits coucous, petits coucous du coup à l'infâme, à Zouzou, à Kémy, à Blanche, à Aurélie, à Redouane, à Abou, à Nathan. On pense fort à vous, on vous envoie plein de force et plein de force aussi à tous les prisonniers, à tous les prisonnières et à leurs proches. Voilà.
Rediffusion mercredi matin à 8h30, force, courage et détermination.
Il n'y a pas d'arrangement.
À la semaine prochaine.
Mon cœur n'est pas alloué,
Je viens du sud mais depuis petit ma tête est à l'ouest. Maman je t'aime, papa où t'es? Au bled je voulais prendre mon envol avec les alouettes. Avec ma famille on a tous une histoire. Combien de pères de naissance et de décès. Quand je brûle j'éteins mais je ne raconte pas. Phrase trop dit l'attentat. J'ai traversé l'Espagne dans un Honda pour chercher mon trésor même s'il m'attend pas. J'aime quand tu souris et que tu dis que tu m'attends. Pas quand tu pointes nos soucis sur ma tempe. Oh, comme si c'était un gun bien chargé. Je vais vous raconter une histoire. C'est chacun sa part de chance, chacun sa part de malheur. Mais des fois, la chance c'est maléfique et le malheur c'est bénéfique, en vrai. 4h du mat, je me réveille, je fais une prière. J'espère que Dieu va bénir ma traversée. Je sais que je vais revoir dans la grandeur de l'océan les larmes que ma mère n'a pas versées. J'ai mon sac et je sors. Sans faire de bruit chez moi, personne doit savoir. Aujourd'hui j'ai rien, alors je suis personne. Demain je serai quelqu'un, car demain je vais avoir. À 7h du mat, tu vois le ciel. Et les oiseaux s'envolent et on bonde. Je suis avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens le sel sur ma peau. Olida s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi, j'ai vu à cause de la pauvreté. Mon pays, c'est de sa faute. On m'a dit que la France est si belle. Des opportunités de travail. Dans ma tête, j'ai plein de rêves. Très loin des champs de bataille. Si cette fois ma chance m'est fidèle, promis, je m'éloignerai du mal. Je peux plus faire marche arrière. Il est déjà 11h du mat. Bref, la vie, c'est un voyage. Et pour nous, ça démarre à la flouka. Par cette flouque. Ah, ah, effacer tous mes souvenirs. J'aimerais effacer tous mes souvenirs. Des fois où ils disaient que j'étais inapte. Des fois où ils disaient que j'étais inapte. Effacer tous mes souvenirs. Effacer tous mes souvenirs. Nadim Kham, j'ai géré. Nadim Kham, j'ai géré. Toi.